Alors la pauvreté, puisqu'on parle de pauvreté régulièrement dans cette société, on préfère parler d'appauvrissement, puisque c'est un processus, on sait qu'elle se mesure. Et on mesure aujourd'hui la pauvreté de différentes façons. Alors on sait qu'il y a des techniciens là derrière, il y a des technocrates là derrière, il y a des gens qui veulent créer des catégories. Et donc on mesure la pauvreté financière. Alors on dit à partir de tel seuil, on est pauvre ou on n'est pas pauvre, à l'euro près. Et donc on sait qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui à l'euro près sont dans la dèche au plan financier. Et puis elle se mesure aussi suivant un critère qu'on appelle le critère de déprivation matérielle. Et ça, c'est les gens qui, au-delà de ne pas avoir assez d'argent pour finir la fin du mois, décident de se priver de choses qu'ils considèrent essentielles pour pouvoir vivre et de choses qui sont banales. Ça peut être le téléphone, ça peut être de ne plus manger de viande. Si on est végétarien, ça va, mais si on ne l'est pas, ce n'est pas idéal. Donc des choses de la vie quotidienne. Et puis la pauvreté, elle se mesure aussi dans le champ des technocrates, de ceux qui ont besoin de faire des chiffres et de classer, de catégoriser pour voir comment on va construire des solutions. Elle se mesure aussi à la notion de la faible intensité de travail. Et la faible intensité de travail, c'est sur la durée d'une année complète, combien de jours de travail sont travaillés dans un ménage. Donc si on a du travail à temps partiel ou en intérim, etc., ben, il y a un certain nombre de jours de travail qui sont prestés sur une année où il n'y en a pas du tout, si on n'a pas eu de travail du tout. Et ça s'appelle l'intensité de travail dans un ménage. Alors le cumul de ces trois choses-là donne des chiffres et dit dans quel état est la population d'un pays, en Belgique, en Roumanie, n'importe où en Europe, en faisant des pondérations. Et ça permet de classer et de décider de politiques publiques en disant « mais il faudra activer les chômeurs parce que ceux qui ont une faible intensité de travail sont dans des conditions de pauvreté plus importantes que les autres. Mais il faut activer les chômeurs dans des bocaux où ce qui est intéressant, c'est qu'ils tournent, qu'ils cherchent, mais qu'ils ne trouvent pas nécessairement de travail. Et puis on sait aussi que le travail, toute une partie de personnes qui vont aller travailler n'auront de toute façon pas, au bout du mois, un salaire suffisant pour les sortir de la difficulté quotidienne, malgré les contraintes que ça aura entraînées. Et moi, il y a une dimension qui m'inquiète et qui me met profondément en colère aujourd'hui. Alors, j'ai peut-être pas l'air en colère, mais je le suis, et ça m'énerve parce que c'est très peu abordé, cette dimension-là. C'est même, comment est-ce que je vais dire ça, c'est même éliminé de la réalité de la vie des gens. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement, le système n'est plus seulement en train de dépriver les gens de moyens matériels, on est en train de dépriver les gens de leur vie privée. Dans le système tel qu'il est organisé pour le moment, on est en train de rendre complètement transparent et instrumentalisable les gens de plus petites conditions, de plus petites conditions financières, de plus petites conditions en capacité de se défendre, d'avoir de l'audace, de l'avoir du bagout, de l'avoir de la connaissance, les gens avec qui l'école a raté. Donc on se permet de rendre toute une série de personnes de plus en plus transparentes, de plus en plus contrôlables dans l'ensemble de la chaîne du système, au nom du fait qu'il est probable que s'ils ne sont pas dans le circuit du travail, ce sont des poids morts pour la société qui voleraient dans le portefeuille collectif de l'argent pour vivre. Donc on est en train de retourner complètement les mécanismes solidaires de solidarité, de sécurité sociale, pour dire, mais c'est les gens qui pèsent sur le système. Et au nom de ça, on s'autorise à les déshabiller, on s'autorise à les contrôler, on s'autorise à regarder même comment ils vivent dans leur vie de couple, dans leur vie privée. Et vous pouvez regarder, il y a des tas d'exemples, hein. Si on est chômeur et qu'on vit à deux, à la même adresse, eh bien on va être contrôlé sur le fait qu'on vive en couple et on aura des allocations réduites l'un et l'autre dans le couple pour avoir une somme d'argent au final pour vivre moins bien. Et aujourd'hui, il y a donc une traque à savoir où vivent les gens. Donc si on est chômeur, on n'a pas la liberté de déloger comme on veut, on n'a pas la liberté d'héberger qui on veut. Si on est travailleur, si on est un couple de travailleurs, personne ne va venir surveiller et il n'y aura pas à personne l'idée de penser qu'on va venir piquer une partie du salaire mensuel des personnes parce qu'elles vivent ensemble et qu'elles font des économies d'échelle. On va plutôt trouver que c'est bien. On va plutôt trouver que ça permet de payer un bout de la voiture, de l'appartement, d'acheter un chien, de partir en vacances, enfin bref, de ce qui permet de faire une existence où on construit de la latitude dans l'ensemble du magma plus ou moins contraint qui nous permet de traverser la vie. Mais si on est chômeur, on n'a pas cette liberté. Si on est allocataire social, savez, ce beau mot qui dit que du chômage, on passe vers le CPS, du moins quand on a droit à être aidé par le CPS. Idem, on doit être contrôlé jusqu'au bout. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a cette chaîne absolument ahurissante, d'une violence crasse. On n'a jamais été dans une époque aussi violente, je pense, que maintenant, depuis les acquis, évidemment, que ceux qui ont mené la bagarre pour les avoir ont eu, donc la sécurité sociale, etc. Ben, on a une déconstruction de, si on est dans le schéma du travail, ça va. Si on n'a plus de travail, on passe dans la sphère du chômage. Et puis, si on devient trop un poids lourd stagnant dans la sphère du chômage, on passe dans la sphère des allocataires sociaux. Et il y a quand même une différence entre la sphère des allocataires sociaux et des chômeurs. Le chômage, c'est encore un dérivé du droit du travail. Donc, c'est encore quelque chose qui fait partie d'une chaîne collective où on se dit, tiens, si je n'ai pas l'opportunité de gagner ma vie, de me réaliser, pour autant que je sois dans une chaîne d'un travail, enfin dans une chaîne, non, dans un travail décent, respectable, qui me permette d'équilibrer une vie familiale avec une vie privée, que j'ai pu choisir. Aujourd'hui, il n'est plus autorisé de dire qu'on choisit un travail. Il n'est plus autorisé aujourd'hui de dire mon aspiration, c'est de devenir ça. Aujourd'hui, il faut être le pion qui dit oui à n'importe quoi, à n'importe quel endroit pour remplir des cases. Mais si on n'est pas dans cette sphère-là et qu'on a traîné trop dans la sphère du chômage, on se retrouve allocataire social. Et là, c'est le comble. C'est le comble de la transparence et de la déprivation de la vie privée. Aujourd'hui, dans notre pays, si vous vous retrouvez comme demandeur en allocation sociale au CPS pour bénéficier du revenu d'intégration sociale, vous allez devoir, par exemple, dans la majorité des CPS de ce pays, faire la preuve par une photocopie des types de dépenses et de recettes que vous avez eues pendant 3 mois en apportant les photocopies de 3 mois d'extrait de compte. Voilà un exemple d'immission complète dans la vie privée. Vous allez devoir laisser entrer un assistant social qui va venir voir si on est sûr que vous vivez bien seul ou si on est sûr que vous n'avez pas quelqu'un qui se cacherait en dessous du matelas qui ferait qu'on vous apporte quelque chose. Vous allez devoir déclarer tout ce que vous faites en termes de recherche d'emploi. Et aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus loin. Le ministre actuel dans le pays en Belgique veut revoir le secret professionnel des assistants sociaux sous prétexte que les allocataires sociaux seraient des grands fraudeurs sociaux. Et sous prétexte qu'il y aurait des tas d'argent à aller chercher là-dedans. Le ministre actuel veut instaurer une forme de travail communautaire obligatoire pour les allocataires sociaux, pour les chômeurs aussi d'ailleurs. Il y a une petite résistance de nos ministres locaux, mais c'est pareil. Il veut installer ça. Et aujourd'hui, on veut même instituer dans les CPS un dossier électronique unique. Alors pour tous ceux qui savent ce que c'est le fichage, le fait qu'on ait tout sur la carte d'identité, ceux qui se sont battus à une époque contre le job pass, malheureusement, on a été peu nombreux à être courageux de se battre et on a perdu. Donc il y a un fichage là qui est fait aussi. On sait ce que voudra dire le dossier social électronique dans un CPS. Si moi, aujourd'hui, je me trouve un marchand famine en difficulté et que j'ai été déposer mon paquet en étant obligé de raconter par A plus B l'entièreté de ma vie pour prouver que je suis dans un état de dénuement suffisant pour qu'on accepte de m'aider et pour essayer de prouver que je n'ai vraiment rien de côté qui pourrait faire que je m'en tire, et donc obtenir quelque chose, ce qui m'aura déjà conduit loin dans le fait de devoir déshabiller ma vie simplement pour avoir droit à un dû dans une société solidaire bien construite, eh bien, au-delà de ça, tout ça se trouvera dans mon dossier, et le jour où je déménagerai et où j'aimerais que ce paquet reste à l'endroit où il a été, il peut me suivre, il pourra me suivre automatiquement par flux électronique dans le CPS suivant où je me rendrai si j'en ai besoin, parce qu'il pourra appeler le dossier. Et donc là, je ne serai même plus une personne qui va aller me présenter un assistant social en décidant de me déshabiller dans les mots, le rythme et la pudeur que je vais essayer de garder avec moi pour me déshabiller et me raconter pour avoir droit à l'aide sociale. Je serai précédée par ce que le travailleur social aura lu dans le dossier écrit par l'autre intermédiaire social qui aura travaillé au début de la chaîne. Et donc je serai non seulement en train de me déshabiller, mais de me dire qu'est-ce que je suis en train de dire qui serait peut-être en contradiction avec ce qu'il a lu, de ce qui serait dans le dossier, etc. Et je suis 2 fois en défense contre moi-même. Alors on est dans une société, moi je crois qui est maintenant absolument à un moment crapuleux par rapport aux populations, et singulièrement par rapport aux populations considérées parasites, accrochées au système de la société, à un moment qui n'a jamais été dans une intensité aussi forte d'interdiction à une vie comme un être humain qui peut avoir du droit au loisir, du droit au temps, du droit au désir, du droit à l'aspiration, du droit à l'erreur, du droit au pas en avant, au pas en arrière, du droit à un rêve, du droit à se dire, mais je vais faire ça autrement que je ne l'ai fait hier, et peut-être que demain je le ferai encore différemment. On est dans quelque chose qui cadenasse toute une série de populations dans ces conditions-là. Il n'y a pas longtemps, dans un autre débat où j'étais, il y a un monsieur à la sortie qui est venu me trouver et qui m'a dit, mais ce que vous venez de raconter, ce n'était pas tout à fait ce que je viens de dire maintenant, c'était autre chose, mais en fait, vous avez raconté une partie de ma vie. Ce monsieur avait 85 ans, et il m'explique, vous savez, quand j'étais gamin, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent, on était très pauvres. Et le propos de mes parents était le suivant, et c'est la phrase qu'ils gardaient dans la tête, on ne doit jamais avoir les pieds qui dépassent du drap de lit. Et donc il me dit, la phrase qui était répétée par mes parents, c'est, si on a peu, on doit faire avec le peu qu'on a, et on doit s'en contenter, et on doit se cracrapoter à l'intérieur du peu qu'on a. Et donc on doit éteindre les désirs, éteindre les aspirations, se conformer à ce carré-là. Mais à l'époque où ce monsieur vivait, c'était déjà extrêmement dur, puisqu'il m'a expliqué qu'au travers de sa vie, même quand il a pu avoir le potentiel financier, etc., quand il passe dans une rue devant un cinéma, eh bien, il a toujours le petit truc dans la tête de ne même pas savoir s'il a encore envie. Parce qu'il dit, j'ai appris à faire le trop peu, et donc j'ai appris à éteindre, j'ai appris à écraser. Donc c'est terrible ça. Mais aujourd'hui, le drap de lit, il n'est plus seulement celui de la famille de départ, où il y a eu dans les générations avant, on était dans le trop peu, et puis il y avait une sorte de perspective qui se dessinait. Ce monsieur, d'ailleurs, a eu des conditions de vie meilleures que ses parents. Aujourd'hui, le drap de lit, il est celui de départ de la famille, et puis on dirait que le drap de lit, il est accroché à quatre pieux par l'ensemble du système, en disant maintenant, t'es coincé dans tes quatre pieux, mais en plus d'être coincé dans tes quatre pieux, tu vas respecter les règles qu'on t'a mis autour de toi pour suivre le système. Et ça, c'est assassin. Et c'est particulièrement assassin, notamment quand on est dans des familles avec enfants. Je vous parlais de ce monsieur-là de 85 ans, je pourrais vous parler de Geneviève, une dame qui est militante dans l'association où je suis, et qui me raconte que les enfants sont rentrés avec des documents fin septembre pour aller en voyage scolaire. Et le coût faisait 230 €, pour ne vous parler que d'argent. Et cette maman tombe sur sa chaise et dit devant ses deux enfants, mais merde, comment je vais faire avec les 230 € à trouver? J'ai déjà postposé le loyer du mois de septembre pour assumer l'entièreté des coûts de la rentrée scolaire, puisque vous le savez, l'école était inscrite comme obligatoire et gratuite dans la Constitution, mais largement pas gratuite et extrêmement discriminante. Et donc, cette maman dit, merde, comment je vais faire? Et les enfants, dans la soirée, viennent lui dire, mais si tu veux, on n'ira pas, tu sais, dans le fond, on n'a pas tellement envie, on n'aime pas. Enfin, le baratin que très rapidement des enfants développent quand on est dans des familles où il faut apprendre à intégrer que les choses ne sont pas faites pour eux et que le trop peu, ils vont devoir s'en satisfaire. Et donc, cette maman va dormir et elle me dit, mais Christine, le lendemain matin, quand je me suis levée, j'étais extrêmement mal et complètement effondrée à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je ne savais plus me réjouir avec mes enfants de ce qui allait leur faire du bien. Je ne critique même pas le voyage scolaire. Ça aurait dû être un peu une fête qu'ils me disent, on va aller en voyage là et là, et que je me réjouisse parce qu'ils vont aller découvrir des trucs. Mais la vie est tellement rude avec nous, tellement rude avec le fait de devoir chercher du boulot mais on n'en trouve pas, tellement rude avec ce chômage qui diminue, avec ces exclusions du chômage, avec le CPS qui demande qu'on déballe tout pour donner peut-être un complément, etc. Mais qu'on finit par ne plus savoir de se réjouir de la perspective. Et donc elle disait, je me rends compte en plus que je suis en train d'éteindre moi-même par les réactions que j'ai et que les enfants intègrent ce mécanisme-là. Alors voilà, moi je pense que ce système aujourd'hui qui est crapuleusement accablant, terriblement injuste, d'autant plus violent qu'on peut écouter les informations tous les jours pour entendre les fraudes dégueulasses à l'argent qui s'enfouit ailleurs, ceux qui ne payent pas d'impôts, et on essaye de nous enfoncer dans le crâne qu'il n'y a pas d'autre solution que l'austérité, que tout le monde doit serrer la ceinture, mais tout le monde ne serre pas la ceinture, tout le monde ne fait pas les efforts, tout le monde n'est pas rendu transparent. Il y a des gens dont l'opacité est organisée, il y a des gens dont le système passe au-dessus comme ça glisse dessus, parce que tout est mis en mécanisme de protection pour empêcher ça. Et donc on est vraiment à un point culminant, à mon sens, de quelque chose de terrible, parce que au-delà du fait qu'on ait l'impression qu'on ne peut plus choisir et avoir d'aspiration, au-delà du fait qu'il n'y ait plus assez dans le portefeuille, il y a quelque chose qui se vide de l'intérieur. Donc il y a un appauvrissement profond dans cette lutte pour tenir, mais dans cette lutte pour savoir aussi qu'on est en train de ravaler ses rêves, qui devient progressivement plus une lutte. Et au final, on peut arriver à des personnes qui sont dans ce qu'on appelle, nous, la pauvreté durable, c'est-à-dire des gens qui, pour ne plus souffrir, ont intégré complètement que le trop peu de tout, matériel, d'aspiration, de réalisation dans la vie, de perspective, etc., c'est devenu le mode de vie. Parce qu'on n'a pas envie de se lever tous les jours en souffrant, parce qu'on n'a pas envie de se lever tous les jours en se flagellant. Et donc, il ne faut pas s'étonner que donc, il y a un champ comme ça qui soit réduit de plus en plus. Et il y a une violence ultime, c'est qu'alors on retourne vers ces populations-là, le fait que tu ne bouges pas, tu es flashé devant ta TV, tu es un fainéant, tu ne fous rien, tu vois bien qu'on peut leur proposer ce qu'on veut, y compris jusqu'en dans le monde de la culture. Anciennement, moi j'y ai travaillé, on peut renvoyer ça contre les gens en disant « mais tu vois bien, tu leur proposes, ils ne viennent même pas, ils ne comprennent pas, ils ne se mobilisent pas, etc. » Et donc on a un dénuement profond qui se construit. Et donc voilà, moi j'ai une colère profonde, j'ai une colère sourde, j'ai une colère, j'espère, contagieuse. Je sais que je n'ai pas une colère violente qui a l'air comme ça d'avoir envie d'enflammer une salle, mais j'espère en tout cas partager dans un débat comme celui-ci une colère qui entraîne à décortiquer ce qui se passe derrière les apparences et en tout cas à recomposer l'humain vers ce vers quoi il doit aller en refusant et en pétant les barrières mises en place par l'ensemble de ce système.